Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette quatrième émission de Sourde et Courageuse. Et c'est un bonheur pour moi de vous faire découvrir des femmes sourdes inspirantes. Je suis accompagnée aujourd'hui de l'interprète Michèle Chabot qui va être là tout le long de l'émission. Et cette émission aussi va être filmée pour que ça soit accessible à toute la communauté sourde. Et aujourd'hui, je vais avoir deux femmes. Elles vont être à distance, mais avec la technologie, c'est merveilleux. On arrive à bien se comprendre et se voir. Je vais recevoir Tiphaine Giraud. Tiphaine Giraud, elle a quand même un parcours assez inspirant, mais là, on va aller du côté un petit peu plus des arts. Hein? Je ne sais pas trop comment la décrire, elle va être mieux placée pour le dire, mais de ce que j'ai vu, je pourrais dire qu'elle est conteuse visuelle, réalisatrice, traductrice, mais elle a un parcours vraiment inspirant au niveau d'un métier finalement qui est plus artistique, mais qui est accessible à la communauté sourde. On va pouvoir parler aussi, elle a créé, attendez un peu, il faut que je le dise comme il faut parce que c'est spill.propagation qui est finalement quelque chose qu'elle a co-créé avec, je crois, sa conjointe. Et on va pouvoir en jaser avec elle de finalement, qu'est-ce que c'est, Spill Propagation. Bonjour, Tiphaine.
Oui, bonjour, Julie. Et bonjour, Michel. Donc, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup.
Mais ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que j'ai bien décrit tes chapeaux de métier là, comme il faut? Conteuse visuelle, réalisatrice, traductrice ou même on pourrait en ajouter peut-être d'autres?
J'ai plusieurs chapeaux exactement. Comme plusieurs personnes sourdes dans la communauté ont plusieurs chapeaux. Donc, on fait plusieurs choses, on essaye de faire plusieurs choses aussi pour changer le monde. Mais oui, effectivement, je suis née en France.
Mm-hmm.
Et je suis arrivée ici au Canada en 98, j'avais 14 ans.
OK.
Et pour moi, ça a été un coup de cœur parce qu'ici, on utilise la langue des signes québécoise.
Oui.
Et c'était une langue accessible pour moi et une langue très riche pour la communauté. Aussi, ça m'a beaucoup aidée à cheminer et à avoir des réussites dans ma vie. Donc, c'est sûr que c'est cette langue-là qui m'a aidée. Et je suis mère également de deux enfants. Je suis artiste dans plusieurs domaines. J'ai fait de la bande dessinée. J'ai étudié les bandes dessinées parce que c'est visuel, c'est artistique, c'est de la communication. Donc, j'ai toujours aimé ça, les bandes dessinées. Et dans les arts, ben, je suis très polyvalente. Je fais du théâtre, je fais du dessin. Je fais de la création cinématographique. Et j'ai cofondé avec deux autres personnes. En fait, on était trois personnes à l'époque, Spill Propagation, parce qu'il n'y avait rien dans le domaine des arts à l'époque. Donc, on a décidé de cofonder Spill Propagation pour offrir, en fait, une plus grande visibilité aux personnes sourdes là, pour essayer d'être leader, essayer d'ouvrir les portes. Et maintenant, il y a beaucoup plus d'offres de services en théâtre. Maintenant, je fais plus de la recherche-création. Donc, c'est d'essayer différentes expériences, façons d'expression artistique. Et on peut être avec des alliés, la communauté entendante aussi, pour trouver des idées, pour pouvoir, des idées artistiques. Donc, on travaille plus présentement en recherche théâtre, en résidence, pour faire de la création artistique. Là, dans, okay. Ça peut être de l'art visuel, des films, des projets, peu importe. On est assez polyvalent et c'est pas toujours lié à l'accessibilité, mais c'est plus lié à la sensibilisation, à la communication.
OK.
Est-ce que tu as d'autres questions?
Non, mais en fait, je te laissais aller, là, mais Tiffaine, si on remonte, parce que là, tu as dit que tu étais originaire de France, tu es arrivée à 14 ans, mais en fait, là, tout ton parcours là, de 0 à 14 ans, à ce moment-là, là, comment ça se passe en France, être sourde?
Oui, en France... En fait, je suis née dans une ville tout près de Paris.
OK.
Et j'ai une sœur sourde qui est plus vieille que moi. Donc, mes parents avaient déjà cheminé. Mm. Hein, la première fois, ils pataugeaient un peu avec ma sœur. Comme je suis la deuxième, bien, c'est un terrain déjà un peu plus connu.
Mm-hmm.
Mais notre communication, nos modes de communication sont différents. Mes parents ont essayé l'oralisme, ont essayé le côté médical avec ma sœur. Ils ont voulu offrir la parole à ma sœur. Moi, j'ai un cheminement différent d'elle. Pour moi, ce cheminement-là n'a pas fonctionné.
Okay.
Pour moi, parler en français est plus difficile. Donc, mes parents ont été voir pour... On a essayé d'aller chercher de l'information, mais c'est pas facile pour les parents d'avoir accès à cette information-là. Donc, ils ont trouvé l'information comme de quoi qu'il y avait une école à Paris qui était en langue des signes française. Donc, mes parents ont décidé d'apprendre la langue des signes française et aussi le LPC, qui est la langue parlée complétée, qui est un code qui est proche, qui se fait proche de la bouche. Et pour mettre en... de façon visuelle, les phonèmes quand on parle. Mais c'est vraiment vers 5 ans que j'ai commencé à être capable d'avoir une communication en langue des signes française et en LPC. Et donc, je faisais déjà 2 écoles. Donc, une école avec les entendants, une école avec... Oh, bonjour! Donc, une école avec les entendants, une école avec les personnes sourdes. Donc, le matin, j'étais avec les entendants, l'après-midi, j'étais avec les personnes sourdes. Donc, je pouvais profiter des deux mondes. J'apprenais dans les deux mondes. Il n'y avait pas d'interprète à l'époque avec moi. Donc, c'était moi qui devais essayer de lire sur les lèvres du professeur. Et quand j'allais à l'école pour les personnes sourdes en après-midi, bien là, c'était plus facile pour moi. Puis, à 8 ans, j'ai décidé de me concentrer là, vraiment plus en oralisme. Puis, c'est moi qui... J'ai pas pris le chemin le plus facile parce qu'il n'y avait pas d'interprète avec moi et je réussissais mon cheminement scolaire, mais toujours de justesse. Donc, j'ai pu cheminer, mais toujours de justesse. Mes parents, quand ils ont appris qu'au Canada, il y avait plus d'accessibilité, qu'il y avait plus d'options de réussite aussi pour les personnes sourdes,
oui.
Ils ont décidé d'émigrer au Canada pour nous donner... une chance d'aller plus loin dans nos études. Donc,
okay.
On a emménagé ici.
Donc, ce que je comprends, c'est que finalement, le choix de venir ici au Canada, c'est pour rendre un petit peu plus votre parcours à vous et votre sœur le plus accessible.
Oui, exactement.
Mmh, OK.
Oui, donc ici, on peut avoir accès à l'université. Mmh. On peut avoir accès à plus de professions, plus de chances.
Oui. OK. Et toi, à ce moment-là, l'art, là, c'est quand c'est arrivé là, dans ta vie que tu sais que ça a été « Ah oui, moi, je veux faire un cheminement artistique.
» Depuis que je suis tout petite.
OK.
Je dessine depuis que je suis tout petite.
OK.
Comme ma communication passait par le dessin quand j'étais petite. Donc, je n'étais pas capable nécessairement de parler. Je communiquais par le dessin.
Oui.
Puis après, ben c'est venu en moi. Ça me fait du bien de dessiner ce que je vois, dessiner des BD. Et j'ai lu aussi beaucoup de BD.
Oui.
Parce que des BD, c'est plus facile. On n'a pas besoin d'avoir un bon français pour être capable de lire des BD.
Oui.
Donc, j'ai fait participer également à l'école à plusieurs pièces de théâtre. Donc, l'art a toujours été en moi. Et je continue de dessiner, de prendre des cours, de la poterie, Toujours.
Est-ce que quand tu es arrivée ici, justement, là, à 14 ans, vu que la France, on connaît moins, là, on ne le sait pas, donc si on se concentre un petit peu plus au niveau du Québec, est-ce que tu as eu des défis au niveau justement du chemin là, que tu t'en allais prendre, l'art et la sourdité? Parce que souvent, ça va être encore là, des milieux qui sont plus entendants. Si on fait juste à penser à un plateau de tournage avec des comédiens, c'est des entendants là, qui sont là. Là.
Oui, c'est sûr qu'il y a au niveau des opportunités, c'est différent. Souvent, les opportunités arrivent parce qu'on crée des alliances. Donc, c'est souvent par les alliés qu'on est capable de sensibiliser et qu'eux vont nous introduire dans des cercles.
Okay.
Donc, la clé, c'est vraiment de créer des alliances, de créer des alliés, d'avoir des présentations, de créer des liens, de leur faire comprendre que l'accessibilité, c'est bien. Mais non, c'est pas facile, le monde de l'art. Souvent, ben, c'est des communications. Et on ne peut pas avoir une communication à tous les jours avec un interprète. Donc, c'est sûr que ça, c'est un plus gros défi.
Quand, justement, tu étais plus jeune, là, à ce moment-là, là, tu les as pas, là, les opportunités comme tu les crées maintenant. Mais quand tu étais jeune, y a-tu des moments où est-ce que tu t'es dit, « Oups, je prends un chemin qui n'est pas simple. » Comme tu sais, du découragement ou tu sais, des moments où est-ce que tu n'étais plus trop sûre là, si c'était la bonne affaire.
Oui, effectivement.
Oui.
Quand j'ai fini mon université, après, j'ai trouvé ça très difficile. Les autres se trouvaient des contrats, mais pas moi.
Okay.
Donc, il a fallu vraiment que j'ai commencé à travailler dans la communauté sourde, dans la gestion de projet, comme coordonnatrice. J'ai pris quelques cours ici et là. Je me suis fait de l'expérience de gestion de projet. Et après, quand j'ai cofondé Spill Propagation, ben au début, c'était du bénévolat.
Ça veut dire
puis après
qu'au...
ça, ben il y a eu une ouverture pour les personnes sourdes dans les à accéder à différentes bourses. Et là, ça a été aidant parce que dans les bourses, il y a une part qui va à l'accessibilité.
Oui.
Donc, ça nous a aidés, ça brise les barrières, ça
okay.
l'ouvre les portes.
Ça veut dire...
Ça, c'est sûr.
Ça veut dire...
Grâce aux bourses auxquelles on a accès.
OK. Ça veut dire qu'au début, tu as vu qu'il y avait des défis pour aller travailler finalement au niveau de l'art. Et là, tu as commencé à t'impliquer dans la communauté sourde. Est-ce que quand tu voulais faire ce métier-là, là, au niveau d'être finalement artiste, est-ce que tu t'es dit, moi, je vais être artiste, mais je vais vraiment m'impliquer au niveau de la communauté sourde, ou c'était plus, non, moi, je veux faire mon métier, je veux m'intégrer à travers les entendants?
Mais... Je crois qu'on peut tout faire.
Mm-hmm.
Donc, je crois qu'on soit sourd, qu'on soit entendant, peu importe. Hein, faut ouvrir nos horizons. On a des richesses à apprendre de partout si on est ensemble.
Mais ça, c'est sûr. Mais est-ce que quand tu as commencé ton métier, c'était très clair que tu allais t'impliquer au niveau de la communauté sourde?
Bien, la communauté sourde a toujours appuyé les artistes. Donc, la communauté sourde m'a toujours appuyée. Elle était déjà là. Déjà, en partant, elle était là pour moi, cette communauté-là. Donc, je pouvais être artiste dans la communauté sans en faisant des partenariats. J'ai pu créer mon expérience.
OK, mais...
J'ai eu un contrat d'illustration.
Oui.
Il a commencé par un organisme de personnes sourdes qui m'a donné un contrat d'illustration. Donc, à partir de ce moment-là, ben j'ai pu faire mon nom et là, de fil en aiguille, d'autres personnes m'ont connue, ont appris à me connaître et le mot s'est passé, mais ça a pris du temps.
Est-ce que tu rêvais secrètement quand tu étais en train de faire tes cours là, à l'université d'être dans des projets avec majorité là, ou presque 99,9% là, d'entendants? Est-ce que c'est à ça que tu rêvais secrètement, que ça soit quelque chose d'accessible à toi comme d'accessible à n'importe qui d'autre?
En réalité,
ouais.
comment le fonctionnement, en fait, c'est faut ouvrir les portes. Faut essayer le plus possible pour rentrer dans le domaine des arts. Moi, je suis artiste et je continue à être artiste
oui.
pour toujours. Donc, faut essayer de créer des alliances puis de. Actuellement, je suis contente de voir qu'il y a un changement dans la société, qu'il y a de plus en plus d'ouverture
Ouais.
et d'opportunités pour la communauté sourde. Beaucoup
Ouais.
plus qu'à dans les années passées, il y a un gros changement, il y a des systèmes qui sont mis sur pied, il y a des groupes de priorités qui sont mis sur pied, de la discrimination positive qui se fait. Donc, c'est pas pareil comme avant et j'espère que dans 20 ans, ça sera encore différent.
Ouais.
Donc, parce qu'en ce moment, il y a des opportunités. Il y a du talent incroyable dans la communauté sourde, puis il faut la mettre en valeur. Donc, ça évolue partout. Comme nous, la communauté sourde évolue, la communauté entendante également évolue.
Oui.
Puis il faut que le système... par exemple, les systèmes de bourse, il y a différentes offres maintenant qui sont offertes aux personnes sourdes. Donc, c'est sûr que s'il n'y avait pas ça, ça serait plus difficile.
Est-ce qu'à l'époque, il y avait ça ou c'était pas tant encore quelque chose d'accessible pour toi?
Quand j'ai commencé plus avec par passion. Donc, c'était du bénévolat que je faisais, de l'implication. Je passais mon temps. C'était par amour de l'art
OK.
que j'ai commencé. Mais oui, ça a été un défi parce qu'on ne se faisait pas toujours bien comprendre. Mais de fil en aiguille, encore aujourd'hui, malheureusement, il y a des endroits que j'aimerais aller, mais qui ne sont pas accessibles. Il n'y a pas nécessairement de budget ou...
Quels endroits là qui sont pas accessibles?
Oh mon Dieu, je pourrais pas dire maintenant.
Est-ce que c'est plus comme dans un
Comme par. Dans une entrevue. Par
Oui.
exemple, c'est arrivé, une compagnie veut me faire une entrevue, mais il n'y aura pas de service d'interprétation. Donc là, je pense, j'arrive là, puis il n'y a pas le service d'interprétation. Après ça, bien, c'est toute la question de qui va payer l'interprète. Qui va faire les relations publiques
Oui.
dans les médias?
Oui. OK. Mais est-ce que tu vois qu'il y a une différence au niveau plus du graphisme, de la BD, là, donc le l'art qu'on pourrait dire là, à ce niveau-là, plus comment qu'on appelle ça? Voyons, l'art, l'art du dessin, là, l'art. Donc, à ce niveau-là, que c'est plus facile que, par exemple, le théâtre, le cinéma, que ça, c'est plus difficile?
Chacun a sa spécificité.
Oui.
C'est toujours au niveau de la création originale qui est difficile, en fait. C'est là, je pourrais pas comparer, mais chacun a son défi.
Bien, non, ça c'est sûr, mais est-ce que justement une personne qui est sourde en ce moment, là, un jeune, par exemple, on parle aux jeunes là, qui ont 15 ans, là, qui se demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire, et il y en a qui vont dessiner seuls chez eux, en secret, il y en a d'autres qui rêvent d'être une grande vedette sur un tapis rouge, d'une première d'un film. Qu'est-ce qu'on dit là à ces jeunes-là? Est-ce qu'on leur dit que ben oui, c'est faisable ou c'est peut-être un chemin là qui va être difficile?
C'est une bonne question. En fait, le conseil que je leur donnerais, c'est suivez votre passion et faites votre possible.
OK.
Et répétez-vous ça souvent.
Oui.
Parce que chaque cheminement est différent. Donc, que ça soit en dessin, que ça soit en production cinématographique, peu importe, il faut suivre sa passion et il faut poursuivre son objectif pour le réussir. Moi, j'ai fait de la scène. Je me souviens au début, bon, j'en ai fait à l'école. Ensuite, j'ai publié un livre. C'est vraiment arrivé. J'ai fait un film à l'Office national du film.
Mm-hmm.
J'ai réussi à faire un co-montage. J'ai fondé Spill Propagation. Donc, les opportunités peuvent arriver. On peut les créer.
Oui.
Mais je me dis que tout est possible.
Oui.
Mais il faut suivre sa passion. Quand on a la passion, c'est contagieux.
Mm-hmm. Bien, toi, Tiffaine, je dois le dire, là, parce que mon émission, en fait, le concept, c'est de mettre en lumière des femmes sourdes de la communauté. Et moi, bien, je connais pas toutes les femmes. Donc, c'est beaucoup du bouche à oreille, parce que comme je suis déjà impliquée là, avec la Maison des femmes sourdes de Montréal, ce qui veut dire que j'ai quand même plusieurs personnes que je côtoie. Qui sont sourdes, et ton nom est ressorti très souvent. Il y a beaucoup de femmes que j'ai reçues en entrevue et qui ont dit « Ah, moi, mon modèle, c'est Tiffaine. » Est-ce que tu as une idée pourquoi les...
Ah, oh, c'est touchant.
Ben, c'est pour ça. Alors, est-ce que tu as une idée pourquoi les femmes sourdes t'ont nommée comme ça à ce point-là?
Oh, wow! ça me touche!
Et même des interprètes aussi. Il y a des interprètes qui t'ont nommé, que tu étais vraiment un modèle inspirant.
Ah, bien, merci beaucoup. Si je peux ajouter une chose, c'est... oui, au niveau du leadership, j'ai du leadership. Pas nécessairement dans... Je fais pas juste des arts, Je suis ouverte aux gens et ça fait partie de qui je suis. Hein. Je veux ouvrir les portes, je veux briser les chemins, puis je veux amener des gens avec moi aussi.
Mm-hmm.
Peu importe dans quel domaine on se retrouve. Hein, c'est un puis le faire aussi, briser des portes, c'est avec une belle attitude, pas en combattant, en partenariat qu'il faut. Donc, c'est ma façon d'être, ma façon de faire. Et je pense qu'il faut prendre le temps aussi de laisser aux gens du temps pour nous accepter. Mais moi, je travaille pas seulement avec la communauté sourde, je travaille avec la communauté entendante, avec les alliés, je travaille avec tout le monde.
Est-ce que tu travailles plus avec la communauté sourde qu'avec les entendants?
Je pourrais pas dire. Je travaille avec tout le monde.
Ah oui, OK. Donc, ça veut dire que toi, dans une journée, tu vas côtoyer des sourds, des entendants. C'est vraiment comme ça, là. C'est comme une... C'est une mixité, là.
Bien, dans ma région, il n'y a pas beaucoup de personnes sourdes.
T'es de quelle...
Donc, je suis dans une minorité. Je viens de Gatineau.
Okay.
Si j'étais à Montréal, ça serait une autre histoire.
Ah.
Je pourrais aller dans des événements plus souvent.
Oui.
Ici, à Gatineau, il y a deux langues aussi. Donc, on parle anglais, français, LSQ, ASL.
Oui.
Mes amis, bien souvent, je suis avec des interprètes et des alliés. Dans mon quotidien, encore maintenant, je lis beaucoup sur les lèvres pour communiquer. C'est pas toujours facile.
Okay.
Ma passion, j'ai une autre passion. Je suis quelqu'un de très sportif. Je veux m'impliquer, mais la communication reste toujours un enjeu parce que les gens, ben, ils veulent jaser.
Ouais.
Ben, le jasage, il y a une limite.
Oui.
Donc, on peut parler de façon courte, dire bonjour, comment ça va? OK, ben. Si j'ai une question en lien avec le sport, on peut finir par se comprendre, on va se texter, on va écrire. Mais je suis quelqu'un de très patiente, très flexible.
Oui.
Mais c'est fatigant, puis des fois, ben, je quitte à cause de ça parce que mon énergie, je dois la conserver pour d'autres choses aussi. Donc,
Et ça, c'est important.
Je dois la conserver pour ma famille.
Ben oui.
Parce que quand j'arrive à la maison, ben là, à la maison, ben là, on utilise la langue des signes.
Mm-hmm.
Et tout le monde communique en signes. Puis même si je suis avec des entendants, mais tout le monde signe. Ça me fait du bien. C'est un apaisement pour moi.
Et
puis quand je sors, ben là, je dois m'adapter toujours.
Mais c'est
je suis toujours en train de marcher comme sur des œufs.
Oui, mais ça, c'est super important de le dire, Tiffaine. Puis je suis contente que tu l'amènes. Parce que c'est de dire que même si tu fais ton métier que tu adores par passion, que tu fais du sport, tu sais, que tu as des loisirs, en fait, et que tu es passionné par tout ça, mais il y a quand même quelque chose où est-ce que ça te demande de l'énergie à travers des beaux moments, tu sais, puis des belles réussites. Mais c'est de dire, ouais, là, j'ai besoin de me retirer, de prendre une pause et de retourner dans ma petite famille. Puis ça, je trouve ça important de le dire.
Oui, des cours aussi, j'aimerais participer à des cours, m'inscrire dans des cours.
Oui.
Mais souvent, je suis obligée de faire des sports plus individuels ou faire des choix.
Oui.
Et il y en a que je décide de ne pas y aller parce, juste à cause de la communication. J'ai déjà voulu faire du yoga, mais là, c'est plus difficile. Donc, j'ai décidé de faire du yoga à la maison, à distance, plutôt que dans un groupe.
Ah, ben, c'est ça. Tiffaine, c'est vraiment un plaisir. Je voulais juste que tu dises, là, en terminant, propagation, c'est à quel endroit là, que les gens peuvent retrouver, parce que même la façon que c'est écrit, là, c'est spécifique, là.
En fait, on a un site Internet.
Oui.
Donc, www.spill.propagation.com.
Oui. Spill, S-P-I-L-L majuscule, hein?
Peu importe.
Peu importe.
Le site web va le reconnaître.
OK. Génial. Bien, merci, Tiffaine.
Donc, vous pouvez me contacter via le site web ou par courriel et ça va me faire plaisir à répondre si jamais il y a des gens qui veulent me contacter. Merci beaucoup.
Merci.
Et de nous donner... Merci à la communauté sourde d'avoir donné mon nom.
Bien, merci beaucoup, Tiffaine.
Donner espoir.
Ah, bien, c'est ça que tu as fait. Merci. Ça a été un grand plaisir. Je te souhaite une belle journée. Bye-bye. Et nous, eh bien, on se retrouve tout de suite après avec Kim Auclair pour une autre magnifique entrevue. Maintenant, je vais m'entretenir avec Kim Auclair. Kim Auclair, qui est à Shawinigan. C'est ça, Kim?
C'est ça, à Shawinigan.
C'est ça, à Shawinigan. Donc, on va pouvoir la voir directement. Elle est à distance, mais on va pouvoir voir Kim de son salon, hein, de sa pièce, son bureau, pour les gens de la communauté sourde. Elle lit sur mes lèvres en ce moment et on entend sa voix. Donc, ce qui veut dire que Kim, ben, on va pouvoir discuter ensemble. Je suis vraiment contente. Kim... Si tu m'entends, puis on parle de cette émission-là pour mettre en lumière les femmes sourdes, ça veut dire que probablement tu as eu un implant cochléaire.
Oui, j'ai un implant cochléaire, mais ça fait pas longtemps que je dis que je suis sourde. Mmh. En fait, c'est vraiment depuis 2018 que j'ai commencé à dire le mot sourd encore. Donc, je pense que c'est une question d'appropriation, d'acceptation de ma sourdité. J'ai commencé à dire le mot sourde, donc je dis tout le temps, je suis sourde et j'entends grâce à un implant cochléaire.
Okay.
Depuis l'opération, en fait.
Parce que dans le fond, tu as eu une opération, t'avais quel âge?
Ben, en fait, c'est en 2018.
Mm.
Donc, c'est tout récemment. Et c'est ça. Donc, dans le fond, avant ça, j'avais un appareil auditif à l'oreille droite et l'oreille gauche, j'entends rien.
OK, donc depuis que tu es toute petite, toi, tu as appris rapidement oraliste.
C'est ça, je suis vraiment oraliste. Je suis née dans une famille entendante Et j'ai eu l'appareil auditif à ma naissance. J'ai toujours grandi, été inclus dans le monde normal, si on peut dire entre guillemets. Mais j'acceptais pas ma surdité, j'en parlais pas de ma surdité, je ne m'identifiais pas aux personnes sourdes et malentendantes autour de moi. Donc, c'est juste ça. Dans le fond, je disais pas le mot sourd, le mot handicap. Pour moi, c'était des mots négatifs et je ne les percevais plus, pas comme je les perçois aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme une forme d'épuisement professionnel, de communication en 2017 que j'ai comme décidé de faire une démarche personnelle, qui je suis, moi, qui m'éclaire par rapport à ma surdité. C'est quoi la surdité? Qu'est-ce qui fait qu'il est typique, qui est typique surdité vis, qu'est-ce qui est moi qui est mon clair? Donc, suite à ça, j'en suis venue à avoir un implant cochléaire, à décider de prendre l'opération, puis d'accepter ma surdité, puis à ce moment-là, de me rapprocher beaucoup de la communauté, puis des organismes aussi qui servent la communauté.
Mais ça veut dire que tout ton parcours, quand tu étais petite, toi, tu étais intégrée dans des classes d'entendants, là. Donc, t'as dû mettre énormément d'énergie pour compenser. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est le fait que, ben toi, oui, tu lis sur les lèvres, mais ça te demande une concentration, mon Dieu, exponentielle, là.
Oui, bien, je dis souvent que j'étais pas consciente de ma débrouillardise. Quand on est, c'est le parent qui est un peu, qui a cette décision-là à prendre. Est-ce qu'il doit opérer? Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui parce que l'implant cochléaire peut arriver plus jeune dans le parcours de l'enfant? Mais le parent, c'est lui qui décide quand il est jeune. Bon, l'enfant va avoir l'appareil aussi. Il va décider aussi si c'est lui qui, s'il s'investit dans cette, s'il donne d'énergie à ce que j'apprenne à parler en tant que tel. J'ai été suivie au Centre de Louis de la Parole toute ma naissance. J'ai eu plusieurs expériences pour apprendre à parler, articuler, tout ça. Donc, c'est ma mère qui s'est occupée, qui s'est très investie là-dedans. Mais je n'étais pas consciente, moi, de ma débrouillardise et de comment j'ai fait à l'école, parce qu'à l'école, la vérité, c'est que j'ai rien retenu. Et dans le sens, j'ai pas retenu les matières théoriques. J'ai pas retenu. Souvent, je me sens pas cultivée. Mais c'est pas de pas être intelligente, mais j'ai pas retenu beaucoup de matières théoriques. Dans le sens que l'éducation que j'ai eue à l'école n'était pas adaptée à ma forme d'apprentissage. Et moi, j'ai un type d'apprentissage, mais j'en étais pas consciente. Ma mère a sensibilisé les professeurs. Donc, j'ai fait preuve de beaucoup
Débrouillardise.
d'ébrouillardise, mais je m'en suis rendu compte juste en 2018 quand j'ai reparti mon audition à zéro. Où est-ce que tu repars ton audition à zéro, le son est trop élevé, tu dois te réapproprier. Et ma mère, c'est pas comme si elle n'avait pas essayé de me mettre des nouveaux appareils ou des nouvelles technologies quand j'étais jeune, mais je refusais tout. Les preneurs de notes, tout qu'est-ce qui pouvait m'aider.
Ah oui.
Donc, ça a été très. À un moment donné, il vient que tu deviens fatigué de communiquer. Et en plus, ajoutons à ça que je suis une entrepreneur. Ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Alors, ben, faut que tu travailles, faut que tu vives aussi. Donc, d'être dans le milieu professionnel, de démarcher deux fois plus que les autres parce que j'avais pas nécessairement les meilleures notes à l'école non plus. Ça a sa place, c'est ça.
Est-ce que justement, parce que comme tu dis, tu as eu des défis au niveau des apprentissages à l'école, parce que dans le fond, tu travaillais tellement fort pour compenser la sourdité finalement. Mais est-ce que à ce moment-là, tu as eu des échecs ou finalement tu passais tes cours, mais c'est juste que maintenant tu ne te rappelles pas de ces acquis-là?
Ben moi, j'ai recommencé à deux reprises mon anglais. J'ai eu de la difficulté aussi avec mon français. J'ai été à l'école des adultes. Donc, j'ai repris les matières. Ma mère ne voulait pas que je passe ma sixième année parce qu'elle me sentait pas prête pour aller au secondaire. Donc, j'ai
OK.
doublé ma sixième année pour être mieux préparée, si on peut dire, pour que comprendre qu'il fallait que je mette des efforts aussi si je veux réussir.
Oui.
Au cégep, c'est là où est-ce que j'ai eu le plus de misère parce que ça demandait une autre forme d'autonomie.
D'autonomie.
Donc, c'est sûr que je me suis débrouillée. J'ai déjà eu des cours en privé aussi.
OK.
C'est ça. Parce que, tu sais, j'essayais de tout le temps de trouver une façon de me débrouiller. Mais la meilleure école pour moi, ça a été de lancer mon entreprise un an avant de rentrer au cégep. Ça a été
Ben,
par l'entrepreneuriat que je me suis réalisée le plus. Donc, oui, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup d'échecs où l'impression de ne pas être capable de prendre ma place, j'ai jamais été capable de prendre ma place, en fait, dans la société. Je me sentais tout le temps différente, mais l'entrepreneuriat, c'est là où est-ce que j'ai toujours réussi professionnellement parlant. C'est là que je m'accomplissais le plus, puis j'avais commencé un an avant de rentrer au cégep.
Mais justement, si on remonte là, parce que ton parcours scolaire, il est quand même pas simple. Et là, est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, OK, ben moi, je vais m'en aller dans, tu sais, je vais faire comme t'es autonome, t'es débrouillard. Ah ben moi, je vais aller faire mes affaires, donc je vais être entrepreneur. Ou au départ, tu sais pas ça que tu voulais là, tu sais, tu rêvais pas nécessairement à ça quand tu étais jeune. C'était soit tu y rêvais ou tu y rêvais pas?
Moi, j'ai toujours été intéressée par les arts, le graphisme.
OK.
Ça, c'est comme ça que je me voyais, soit que
Ouais.
j'étais graphiste ou infographiste. On parle des années 2000, donc l'ordinateur commence à rentrer dans la maison. Et moi, j'ai vu le web comme une deuxième opportunité de me réaliser. Je me
Ouais.
disais, si les gens ne veulent pas me voir la face, si je sens tout le temps qu'il y a des préjugés, quand je parle, parce que ma voix n'était pas celle que tu entends en ce moment, mon accent était beaucoup plus présent, mon accent de sourcité, si on peut dire,
Ouais.
était beaucoup plus présent. C'est à force de travailler dans le monde des communications, à force de faire des entrevues, puis depuis mon implant cochléaire aussi, ma voix a beaucoup changé, mais ça, c'est inconscient. Ben c'est ça, fait que moi, je me suis dit, on parle des années 2000, donc 2003, c'est l'année où est-ce que je me suis lancée de façon un petit peu plus officielle, mais sinon, avant 2000, j'étais tombée sur une plateforme de cyber-mentorat qui
Oui.
s'appelle Academos,
OK.
et j'étais tombée sur un mentor, quelques mentors qui exerçaient le métier du graphiste. Et moi, je pensais pas à l'entrepreneuriat. J'assumais pas le mot entrepreneur non plus à cette époque-là. Mais le mentor, il m'a fait rencontrer trois, quatre types de graphistes. Des graphistes en entreprise, des graphistes à la pige, des graphistes qui avaient leur propre entreprise, des graphistes au gouvernement, puis toutes sortes. Donc, j'ai changé avec eux. Et quand je suis arrivée dans le bureau de la graphiste qui avait bâti son agence, bâti son entreprise, ça m'allumait beaucoup de voir que c'est elle qui a fait les processus, qui a fait les petites chemises,
Ouais.
le dossier. Mais je suis pas nécessairement une fille qui veut avoir un bureau. J'ai préféré vraiment de travailler à partir de chez moi. Mais c'est ça qui m'allumait beaucoup.
OK, mais à ce moment-là, là, ça veut dire que toi, tu as fait une formation en infographie et là, tu t'es dit, parfait, moi, je veux être entrepreneur en infographie. Est-ce que c'est ça?
Oui, en fait, c'est plus du graphisme.
Mais graphisme.
Mais oui, j'ai suivi DEC en graphisme.
OK.
J'ai été au cégep en graphisme et j'ai fait aussi un petit cours formation professionnelle en infographie.
OK.
Mais c'est
Mais toi, à ce moment-là, là, tu t'es dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire, donc de l'infographie. Mais là, de là à dire, je veux faire de l'infographie versus je veux être entrepreneur, on s'entend qu'il y a quand même une grosse marche, là, tu sais, entre les deux. Qu'est-ce qui fait que t'as fait le saut pour dire, moi, je veux être entrepreneur?
Moi, je dis, je suis entrepreneur, mais légalement, même si je suis incorporée, même si je paye beaucoup de pigistes, c'est légalement, je travaille à partir de chez moi, je suis tout seul, mais j'ai une fibre entrepreneuriale qui est quand même assez forte,
OK.
qui va au-delà de juste être une pigiste. mais qui fait quand même des, qui accomplit quand même des gros projets. Ça vient avec soi, c'est des petites actions qui fait en sorte que moi, je suis quelqu'un qui, quand j'apprends quelque chose, j'ai toujours le goût de l'apporter dans des plus grandes expériences. Donc, si j'apprends quelque chose, j'ai besoin d'un nouveau, ben je prends qu'est-ce que j'ai appris, puis je l'amène dans des plus gros projets. Mm-hmm. Alors, ça a toujours été comme ça. Plus j'avance, petit pas par petit pas, plus je suis capable de d'accomplir des plus gros projets. Donc, c'est venu un peu comme ça. Et je me suis rapprochée beaucoup de la communauté d'affaires. Pendant longtemps, j'ai été quand même une blogueuse très sollicité dans le monde des affaires. Puis là, je recommence tranquillement à travailler avec des grosses organisations là, comme blogueuse. Là, fait que, mais je ramène mon côté handicap dedans.
Bien, est-ce que... En fait, c'est ça je trouve intéressant parce que tu fais finalement un... Tu sais, tu pars d'être infographe, graphiste à... Je vais être entrepreneur dans cette voie-là. Mais là, finalement, tu travailles majoritairement avec des entrepreneurs. Tu sais, c'est de les mettre, eux, en lumière. C'est ce que tu fais, là.
Oui, oui. Dans le fond, concrètement, je fais des relations de presse, puis je fais de la consultation en communication web. Et mon bagage en communication, que ce soit comme coordonnatrice de projet web ou rédactrice web... démarrage d'entreprise web, tout ça, bien, je l'ai tout fait moi-même. Donc, j'interviens sur différents dossiers. Encore là, ça peut être des dossiers de créer un projet de podcast, aller chercher des commanditaires, se vendre. C'est toutes des choses que j'ai fait moi-même.
Mais non, mais c'est ça qui est beau. Ça veut dire que moi, je suis entendante, j'ai un projet X, donc un projet podcast, ben je peux rentrer en contact avec toi. Je peux te demander de l'aide.
Effectivement. Donc, moi, je peux t'aider. Ma force, ça reste les bases des relations de presse, c'est de communiquer. Et j'utilise le web pour le faire. Donc, que ton message soit clair, qu'on sente que derrière ce que tu fais, il y a vraiment un impact, que ça soit bien structuré, que quand on va venir à faire la promotion de ce projet-là, que tu le fasses auprès des bonnes personnes. Et il y a beaucoup de techniques de relations de presse que je transporte pendant tous mes projets, ce qui fait en sorte que ça va leur donner une visibilité hors de la communauté dans laquelle on fait partie.
Okay, quand tu parles des relations de presse, c'est-tu vraiment comme moi, vu que je suis dans les communications, mes contacts avec les relations de presse, ben toi, c'est la même chose, finalement?
Oui, effectivement.
Tu fais des communiqués.
C'est autant de, comme en ce moment, l'entrevue, c'est un peu une retombée de la relation que j'avais déjà avec des gens de la station. Donc, dans le fond, c'est vraiment ça. Fait qu'à chaque fois que j'ai des projets avec des clients, ben c'est d'inclure tous les types de médias. On s'entend aujourd'hui, un média, c'est autant quelqu'un qui démarre son propre média qu'un média traditionnel, autant des podcasts, autant la radio, autant le monde politique, les élus, parce qu'ils vont parler de toi dans l'univers des politiques. Donc, moi, je vais mettre en contact. Je fais vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même. Mais la particularité, c'est que je le fais pour les travailleurs autonomes et les petites entreprises qui n'ont pas nécessairement le budget de payer des firmes de relations de public. Donc, c'est vraiment les premiers pas. Et s'ils veulent être délégués plus tard, c'est correct, mais ils peuvent en faire un gros chemin avec moi.
Et Kim, moi, je trouve ça vraiment beau parce que tantôt, tu as dit que tu as eu ton implant cochléaire en 2018, ce qui veut dire que ça ne fait pas très longtemps. Donc, tu es dans ce métier-là là, depuis 20 ans. Donc, on se doute que tu n'as pas 20 ans, hein, sans dire quel âge tu as, mais juste à écouter ça, on se dit elle doit approcher de 40 ans, hein, au moins. 40 ans ou peut-être même un peu plus par rapport aux 20 ans d'expérience. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en 2018, à ce moment-là, t'es une adulte là, de 30 ans et plus. Et c'est à ce moment-là que tu mets l'implant. Et avant ça, tu refusais la sourdité. Et finalement, quand tu as ton implant, c'est là que tu te rapproches encore plus des entendants, hein, parce que là, tout d'un coup, ça devient encore plus facile de communiquer avec toi. Mais toi, c'est à ce moment-là que tu t'es rapproché des sourds, de ton identité de sourde. Comment c'est arrivé, ça?
C'est dans la volonté de comprendre qui j'étais. J'ai toujours ignoré la communauté. C'est dans la volonté de... Tu sais, j'ai commencé très jeune en affaires. J'avais 18 ans quand j'ai lancé ma première entreprise. Jusqu'en 2017-2018, ben c'est toutes les... On me connaissait de façon professionnelle, mais il manquait un petit quelque chose pour être encore... pour passer à une prochaine étape. En fait, tout est parti de... Parce que j'ai écrit un premier livre en 2017. J'ai écrit un livre qui faisait un retour sur mes 10 premières années en affaires. Et moi, le but, c'était d'inspirer les jeunes entrepreneurs.
Oui.
Mais de parler aussi de l'impact du mentorat dans ma vie. Mais sauf que quand j'ai fait ce livre-là, je pensais que en publiant, j'allais passer... Je venais d'engager ma première employée à temps plein. Puis je pensais que j'allais passer vraiment à un gros stade, à un autre stade en publiant. Mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Quand je l'ai publié, bien, j'ai compris que c'était comme... Je parlais pas de ma sourdité dedans. Puis je pense qu'il manquait un petit quelque chose qui fait qui je suis, pourquoi je suis rendue là, qu'est-ce qui fait mon histoire encore plus unique. Et là, bien, c'est comme une forme d'épuisement. Le goût de renaître ou le goût de se réinventer, de donner un deuxième sens à son travail, si on peut dire. Je suis comme partie à la rencontre de moi-même en rencontrant, en invitant d'abord deux personnes de la communauté sourde que j'avais connues quand j'étais jeune à la KEPA de Québec. J'ai dit, écoutez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Venez chez moi, puis je vous ai pas ignoré, on était en contact, mais tu sais, écoutez, je veux vous connaître. Fait que là, ça a parti comme ça, puis c'est quoi vos réalités? Puis moi, je posais des questions banales, mais tu sais, le but, c'était de m'identifier, de comprendre pourquoi je me comportais de certaines façons. Et j'en parlais même pas à ma famille, j'en parlais même pas à mes proches, dans le sens que mon père souvent pensait que je fakais, mais là, j'avais des mots. Il pensait pas que je fakais, mais tu sais, souvent, c'est « de pronom, tu comprends-tu? » Je n'arrivais pas à exprimer ce que je vivais. C'est sûr, mais là, en parlant avec la communauté, ben, j'arrivais à mettre des mots puis à expliquer clairement, au lieu de pogner les nerfs, à mon père, ben, si tu te mets dans le salon puis tu essaies de me parler puis que je suis devant mon ordi puis que la télé est ouverte, ben, c'est sûr que c'est pas une communication propice s'il y a beaucoup de monde autour de la table puis que... vous parlez dans un langage non accessible pour moi, puis de politique ou de philosophie avancée avec des mots que je comprends rien, ben ça va être difficile de m'intégrer. Voilà pourquoi je me retire. Fait que c'est de mettre des mots à qu'est-ce que je vivais, de pouvoir l'expliquer clairement aux gens. Fait que ça m'a permis ça. Mais je suis allée un peu plus loin. Je suis allée aussi dans une école oraliste, l'école oraliste à Québec, pour les sourds.
OK.
Je suis allée voir la directrice générale. J'ai dit... Écoute, je pense que c'est André, ou c'était André, est parti, mais je suis allée voir André, j'ai dit, écoute, moi, je peux aller dans une classe normale, je suis allée dans une classe normale, mais je me suis toujours demandé si j'aurais été dans une classe de personnes sourdes, malentendantes, qu'est-ce que ça aurait changé? C'est sûr que je pense que les deux, l'inclusion, je crois beaucoup à l'inclusion, mais en même temps, ma forme d'apprendre était pas adaptée. Tandis que si là-bas, je me rends compte que peut-être que j'aurais une manière de retenir l'information de manière différente. Mais par contre, ceux qui sont dans des écoles adaptées doivent faire un cheminement aussi d'adaptation quand ils s'en viennent. Qu'ils doivent fait que bref, ça a été comme pendant un an de temps, je rencontre des psychologues, des audiologistes, tout ça, juste à en venir à repartir l'audition à zéro. Ah donc, ça a été comme pour moi une façon de me réinventer au travers de mon histoire. Puis aujourd'hui, je voudrais que, tu sais, je suis la même personne, autant entreprenante, mais moins dans le paraître. Mm. Dans le sens, la femme d'affaires, puis on va essayer de paraître, puis tout ça. Je suis vraiment plus moi. Et, bon, ben c'est découvrir, puis tout ça, c'est long. On arrive à la quarantaine, puis bon, ben tu sais, j'ai l'impression d'être encore plus moi, puis c'était vraiment ça, c'est de me découvrir au-delà, puis de prendre conscience de cette dépouillade.
Mais tu vois, Kim, je trouve ça vraiment beau parce que dans le fond, c'est comme si finalement ça va au-delà de la sourdité. Là, c'est comme une quête vers nous-mêmes, hein? Tout simplement. Cette quête que tous les humains, on a à différents niveaux, mais on veut tous être pleinement nous-mêmes et ne plus être dans ce que les autres pensent de nous et le regard de l'autre. Et je pense que finalement, toi, en ayant mis l'implant, au départ, ton intention, c'était pas de mettre l'implant pour que ça amène cette connexion-là à toi.
C'est un élément déclencheur. Ça a comme été une façon pour moi de communiquer autrement et de laisser un impact.
Oui.
Positif. Et naturellement, ben vu que je parlais, moi je m'en rappelle, la première fois que j'ai parlé publiquement sur Instagram, c'est de se montrer un peu plus vulnérable.
Oui. Aussi.
Je m'en vais à l'hôpital, je m'en vais, j'ai mon opération, mais je suis stressée, j'avais peur. Qu'est-ce que le milieu professionnel m'a dû trouver plus vulnérable? Ben en fait, depuis que j'affiche ma surdité, j'attire encore des clients qui sont encore plus attachée à mes valeurs, puis je collabore beaucoup avec des entreprises en situation de handicap.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qui est beau actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises comme la BDC, comme les affaires, comme des grosses entreprises qui... Il y a beaucoup de programmes, tu sais, avec l'inclusion d'entreprises.
Oui, comme Sphère Québec.
Ouais. Puis je suis vraiment intégrée là-dedans pour faire tout ce que j'ai fait avant mon opération avec mon implant cochléaire, mais je le ramène dans un contexte où est-ce que j'ai l'impression d'avoir un impact plus fort. Alors là, je suis blogueuse pour lesaffaires.com. J'avais été blogueuse en 2012-2011, mais très entrepreneuriat. Mais là, j'apporte pour parler, ma contribution pour parler de la débrouillardise des personnes en situation de handicap. Puis l'insertion dans le milieu professionnel, puis l'acceptation à quel point que c'est important.
Oui.
Parce que 49% des employés ne le disent même pas qu'ils ont une sourdité ou qu'ils ont un handicap invisible. Donc, mon but, c'est juste de contribuer à la normalisation de tout ça. Puis je pense que moi, ça m'aurait aidé plus tôt dans mon parcours à mieux m'intégrer dans la société.
Vraiment, ton parcours est vraiment... Et je trouve tellement ça inspirant, Kim, de t'entendre. Et c'est à quel endroit là, que les gens peuvent retrouver là, les informations par rapport à tes services?
Bien, en fait, vous pouvez aller sur kimauclair.ca.
C'est de même, là. Kim Auclair, pas compliqué, pas un pseudonyme. Kimauclair.ca. Puis là, on a tous tes services à ce moment-là. Puis ton site Internet, il est franchement très beau. Hein? Il est très éclaté.
Ah,
donc, on voit le côté de la graphiste et infographe, là, parce que c'est toi probablement qui as fait ça.
Oui, mais graphiste, on voit un peu tout, mais
oui.
Indirectement, c'est comme devenu ma marque. Mon nom est devenu ma marque indirectement. C'était pas ce que je voulais. Mais faut que je l'assume maintenant que j'ai réussi quand même à pousser mon nom assez fort.
Et t'as bien réussi. Ça a été un grand plaisir, Kim, et j'invite les gens à aller voir sur tes réseaux, autant les entendants que les gens de la communauté sourde, que d'autres personnes là, qui ont d'autres formes d'handicap et tout ça, là, peu importe, en fait, tout le monde. Parce que, tu sais, des fois, on peut avoir des services spécifiques uniquement à la communauté sourde, mais toi, c'est très large, tout ce que tu fais. Donc, j'invite vraiment les gens à aller voir ce que tu fais. Merci, Kim. Ça a été un grand plaisir et j'espère qu'on va avoir le plaisir de se retrouver là, dans un autre contexte.
Ben oui, je le souhaite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bye bye.
Bye.
Ça a été vraiment un plaisir aujourd'hui de cette belle émission. Je vais remercier mes invités. Stéphane Giraud. Et vous pouvez aller sur son site internet, le spill.propagation. Et Kim Auclair, même chose, elle, sur ses réseaux, kimauclair.ca. Je remercie Mathieu à la technique et évidemment mon interprète, pas la mienne, l'interprète Michel Chabot. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Merci tout le monde. Bye bye.